France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver en ce petit matin. Au programme du 5-6, entendre la mer et des femmes exceptionnelles du monde maritime. C'est l'objet d'une série de podcasts. On en parle dans les chroniques littorales. On fera bien sûr un premier tour des unes de la presse. Direction les États-Unis aussi, au lendemain de la panthéonisation de Robert Badinter. Entretien exceptionnel avec un condamné à mort américain. Nous serons aussi entre les États-Unis et Porto Rico avec Bad Bunny, l'invité haut de gamme du prochain Super Bowl. Direction le Pays Basque où notre invité déjà debout élève des brebis et cultive des pommes. Et puis le café philo rajeunit aujourd'hui. Aujourd'hui, premier épisode consacré au bac philo avec des lycéens assez épatants, vous verrez.
France Inter.
Mais on démarre cette heure avec le journal de Lucas Nitsch. Bonjour Lucas.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit.
Il valide l'accord de libération des otages. Un cessez-le-feu devrait donc entrer en vigueur à Gaza dans les 24 prochaines heures. Les otages seront libérés d'ici lundi, assure Donald Trump, qui prévoit de se rendre au Moyen-Orient dès dimanche. France Inter sur le terrain à Tel Aviv, place des otages, où une foule dense s'est pressée hier pour célébrer l'accord. Et c'est bien Donald Trump que les Israéliens remercient. Si cela dépend des deux, aucun doute, il lui décernerait le prix Nobel de la paix. Reportage Gilles Gallinaro et Marie-Pierre Véraud.
We love Trump. Un quasi plébiscite pour Donald Trump sur la place des otages. C'est lui qui a ramené un vent d'espoir, lui qui est capable de faire la paix, lui que l'on applaudit, son nom que l'on voit sur des pancartes avec de gros cœurs. L'une d'elles proclame « Trump est notre sauveur ». Ce Nobel de la paix, il le mérite. Nati n'en doute pas.
Ce qui compte, c'est le résultat. Si les otages rentrent à la maison et que les soldats rentrent chez eux sains et saufs, on aura fait ce qu'il faut. Et de mon point de vue, ils peuvent même lui donner deux fois.
Même Louis s'incline, lui qui pourtant a toujours voté à gauche.
I don't like Donald Trump.
Je n'aime pas Donald Trump.
I think he's stupid.
Je pense qu'il est stupide.
I think he doesn't
Je pense qu'il ne comprend absolument rien au Proche-Orient.
About the Middle East.
Mais je souhaite qu'il reçoive le prix Nobel, si grâce à lui vient la paix.
Quant à Damon, il adopte une rhétorique très trumpienne de l'art du deal.
I trust Trump.
Je fais confiance à Trump.
And I think Trump is going for his Nobel Prize.
Il veut son prix Nobel,
which is great.
C'est très bien.
I hope he gets
J'espère
it.
Qu'il va l'avoir
And
et que nous récupérerons nos otages.
It's a win-win situation.
C'est du gagnant-gagnant.
Mais nuance David, pour avoir le Nobel, il faut déjà faire la paix.
Aujourd'hui, je crois que le Nobel, c'est à la condition pas seulement de libérer les otages, c'est aller au bout du conflit israélo-palestinien. Ça oui, quel que soit l'homme politique qui amènera cette région à s'apaiser et à avoir un dialogue entre Palestiniens et Israéliens, alors oui, il méritera le Nobel, Trump ou un autre.
Et l'accord signé à Sharm el-Sheikh n'est que le tout début du chemin. Tel Aviv, Gilles Gallinaro, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Donald Trump qui se voit bien recevoir le prix Nobel de la paix, d'autant plus que son adversaire Barack Obama l'a reçu en 2009. Et le président américain a reçu le soutien hier du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Mais ça risque d'être compliqué pour cette année. Le comité Nobel a entériné son choix lundi dernier, avant l'accord de cessez-le-feu donc, et la décision sera dévoilée aujourd'hui 11h à Oslo en Norvège. Un enfant de 7 ans tué dans une frappe russe sur Zaporijja cette nuit. De nombreuses explosions ont aussi eu lieu à Kiev, la capitale ukrainienne. Tout l'est de la ville est privé de courant. Les autorités décomptent au moins 12 blessés au total sur les deux villes.
En France, on attend, on espère, un nouveau Premier ministre avant ce soir.
Comme un air de déjà-vu, qui pour remplacer Sébastien Lecornu ? Une renomination n'est pas entièrement exclue, mais d'autres noms de Premier ministrables circulent depuis hier, dont Jean-Louis Borloo, ancien maire de Valenciennes et ministre de Nicolas Sarkozy. Il donnait hier soir une conférence à Toulouse pour parler décentralisation. Alors forcément, les questions sur son avenir politique ont fusé, mais lui a préféré entretenir le flou, Audrey Tison.
Non, il n'a pas reçu de coup de fil de l'Élysée. D'ailleurs, quand dans le public, des élus lui demandent ce qu'il ferait s'il était appelé pour Matignon.
J'appelle ma femme.
La question lui est ensuite reposée. Jean-Louis Borloo répond plus sérieusement.
Je ne sais pas s'il y aura une conversation. Et au fond, ma personne n'a aucune espèce d'importance. Ce que je sais, c'est qu'il faut que ces 18 mois elles soient utiles. Vraiment, je souhaite que le président fasse une démarche de nomination d'un gouvernement pour gouverner la France et lui donner un cap. et pas expédier les affaires courantes d'ici 2027.
Et pour ce qui est du budget à venir, celui qui a déjà été travaillé par les équipes Bayrou puis Le Cornu, l'ancien ministre de l'économie est sévère.
C'est un budget à 180 milliards de déficit. Ça va pas être un bon budget. S'il doit y avoir une équipe gouvernementale demain choisie par le président, c'est pour aider à redresser la France.
Jean-Louis Borloo estime que les élus républicains de ce pays devraient pouvoir s'entendre à 80% pour changer le quotidien des Français.
À Albi, 13e et dernière journée du procès de Cédric Jubilard devant la cour d'assises du Tarn. L'accusé sera entendu aujourd'hui. Après des témoignages accablants hier, deux de ses ex-compagnes sont venues témoigner à la barre avec des versions différentes, mais un point commun, elles affirment toutes deux que Cédric Jubilard leur a confié avoir tué sa femme Delphine. Le verdict est lui attendu vendredi prochain. Chine au BHV, le feuilleton continue après le retrait mercredi de son principal soutien financier, la Banque des Territoires. Aujourd'hui, les salariés du magasin parisien sont appelés à faire grève. La marque d'ultra fast fashion veut y ouvrir sa toute première boutique physique au monde dès le mois de novembre, mais elle est régulièrement accusée de concurrence déloyale et selon les syndicats, elle menace à court terme la survie du grand magasin déjà en sérieuse difficulté. Fermez les guillemets.
Des milliers de personnes massées devant le Panthéon hier soir.
Le long de la rue Soufflot pour applaudir l'entrée du cénotaphe de Robert Badinter. Cérémonie de panthéonisation de l'ancien garde des Sceaux, 44 ans après l'abolition de la peine de mort, son principal combat. Emmanuel Macron a promis de porter ce combat jusqu'à l'abolition universelle de la peine capitale. La cérémonie a été suivie notamment par Isabelle et Jean-Marc, très émus.
On ressort avec une note d'espoir qu'un combat pour les droits humains, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené et que, bah, comme le dit si bien Robert Badinter, la vie est plus forte que la mort. Et c'est beau aussi de voir qu'il y a si grand rassemblement autour de cet événement. Et ça montre qu'il y a aussi de l'espoir dans la nation française et les gens qui la composent pour saluer justement le combat pour les droits de l'homme et pour la dignité humaine.
Il faut toujours avoir cet espoir qu'effectivement l'homme est bon. Et ça fait du bien d'entendre ce message humaniste, un combat qu'il a mené toute sa vie, non pas pour accéder à du pouvoir et pouvoir user du pouvoir, mais justement pour défendre toujours la même cause, inlassablement.
Propos recueillis par Faustine Calmel. Le cénotaphe de Robert Badinter sera transféré aujourd'hui dans le caveau des révolutionnaires de 1789, mais son corps restera dans le cimetière de Bagneux, au sud de Paris, où sa tombe a d'ailleurs été profanée hier matin. Une enquête est toujours en cours. Enfin, une journaliste de France Inter récompensée d'un prix MeToo Media. La première édition de la cérémonie s'est tenue hier pour récompenser les enquêtes et récits qui brisent le silence autour des violences sexistes et sexuelles. Ariane Grissel reçoit le prix du meilleur reportage audiovisuel pour son enquête « Violence conjugale, les entendez-vous dans nos campagnes ?»
Bravo Ariane, et vous pouvez bien sûr écouter ce reportage sur le site de France Inter. C'était le journal de Lucas Niche, vous revenez dans une petite demi-heure Lucas. Il est 5h08.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Dans le nord de l'Amérique, on appelle ça l'été indien, Elodie Calac.
Une journée souvent très ensoleillée, le soleil est déjà bien présent ce matin. Patience tout de même au pied des Pyrénées, de l'Auvergne vers le Lyonnais, les plaines d'Isère et le Val de Saône, la grisaille est fréquente, le soleil va revenir cet après-midi. Du sud de la Bretagne vers la région parisienne et le nord de la Lorraine, quelques nuages bas ou brouillard, on en parlera plus cet après-midi. En revanche, ça va rester bien encombré du nord de la Bretagne vers la Normandie et le nord de la Seine. En Méditerranée, là c'est du soleil avec du vent, Mistral et Tramontane, jusqu'à 50 km à l'heure. Sur l'est de la Corse, le risque orageux persiste ce matin, il n'y aura plus que quelques averses cet après-midi. Les températures sont en baisse. Ce matin, comptez 5 à 11 degrés le plus souvent, jusqu'à 16 en Méditerranée. Cet après-midi, un peu comme hier, 16 degrés à Cherbourg, 17 à Metz, 19 à Paris, Dijon, Saint-Etienne, 20 à Châteauroux, 21 à Rennes, 23 degrés à Agen et Montauban. Et puis un cran au-dessus en Méditerranée avec 26 degrés à Sète et Marseille et 27 à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd.
5h09 à suivre sur France Inter, Mer et Terre au programme. Une podcasteuse de femmes de mer dans les chroniques littorales et un fermier du Pays Basque sera notre invité déjà debout alors que Tanguy Pastureau lui maltraite l'info et fait son retour à la Terre par écran interposé. Ça sera à 5h25. Avant tout ça, on traverse la Manche. Voici le groupe mythique Pulp et leur chanson Tina. Bon réveil sur Inter.
Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place, although I did once buy a ring.
De Pulp, titre issu de leur nouvel album Mort, sorti cette année. 5h13 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lour.
Ce matin, José-Manuel, vous nous présentez une mérienne portraitiste.
Elle s'appelle Nathalie Bureau du Colombier. Elle n'est pas peintre, comme on pourrait l'imaginer. C'est une créatrice de podcast. Elle dresse des portraits de femmes exceptionnelles du monde maritime. Cela s'appelle Les Étoiles de Mer. Bonjour Nathalie Bureau du Colombier.
Bonjour José-Manuel.
Ces portraits de femmes exceptionnelles du transport maritime, vous, ça vient de votre création, votre idée, c'est Transpod, le transport et le podcast. Tout vient de là parce que vous enregistrez, vous recueillez des témoignages d'hommes et de femmes du maritime.
Exactement. Il y a deux chaînes podcast que j'ai lancées simultanément en 2024. Les Étoiles des Mers, qui sont donc des portraits de femmes qui racontent leur parcours, pour le moins exceptionnel, que ce soit en mer ou à terre. Donc ce sont des parcours des femmes transitaires, des femmes qui ont monté de toutes pièces une compagnie maritime, par exemple à Saint-Pierre et Miquelon.
Des femmes qui naviguent.
Qui naviguent. Je pense à la seconde capitaine chez Ponant et qui racontent leur parcours, leurs difficultés, leurs rêves, leur expérience et qui donnent envie aux jeunes et moins jeunes.
Et Transpod, vous, c'est transport et podcast, c'est tous les modes de transport sur votre chaîne.
Exactement. Tous les modes de transport sont embarqués deux fois par semaine, tous les lundis matins, 5 minutes d'émission. Tout ce qu'il faut savoir dans le monde sur les transports et la mobilité sous le prisme, j'y tiens, de la décarbonation.
Alors une question peut-être difficile. Qu'est-ce que le transport maritime, à part de flotter, a de différent par rapport aux autres modes de transport ?
Ah, j'allais dire, vous touchez ma corde sensible. C'est l'esprit d'équipage, c'est l'esprit d'aventure, c'est la rêverie. C'est un monde fascinant. Et le temps des marins n'est pas le temps des terriens. Et le maritime, on le voit parfois, est une aventure. Et tous les jeudis, je reçois un invité.
Quand vous dites sur l'eau, ça peut être mer et fleuve aussi.
Complètement.
Qui vient témoigner chez vous ?
Ce sont des personnalités qui, à mes yeux, ont quelque chose à dire, à raconter.
Alors, personnalité, ça ne veut pas dire qu'on est très très important. Ça veut dire qu'on est une figure.
Exactement.
Et d'où vous est venue cette idée, justement, de Transpod ?
L'idée de Transpod, elle est toute simple. J'ai commencé mon métier de journaliste maritime en 1995. Donc, ça fait pile 30 ans, 2025. Donc, je travaillais pour un quotidien que les gens du transport maritime connaissent bien. L'antenne. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour la presse spécialisée transport et je me suis dit, en fin 2023, les gens lisent beaucoup moins. Les nouvelles générations sont fans des podcasts, donc je me suis formée et j'ai lancé Transpod, fruit de mes 30 ans d'expérience en presse professionnelle.
On a commencé avec les étoiles de mer, on va terminer avec les étoiles de mer, Nathalie, puisque ces femmes emblématiques du monde maritime, on les retrouve au sein d'une association qui est Vista, avec un W, I-S-T-A, et vous en êtes membre.
Exactement, Women's International Shipping and Trading Association, qui regroupe 4600 membres dans le monde entier. Elles apportent quelque chose de différent dans les rapports humains, avec une vision maritime différente.
Et Nathalie Bureau du Colombier, une mérienne, une femme de la mer, est-ce une éducation ?
Complètement, dans plein de domaines.
Peut-être que beaucoup d'entre elles ont eu une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, femme de marin, qui regardait le père, le frère, le mari larguer les amarres. Et le temps qu'ils reviennent, il fallait tout gérer à terre.
J'en sais quelque chose, José Manuel.
Voilà. Merci Nathalie Bureau du Colombier. Alors, les podcasts Les Étoiles de Mer et Transpod sont à retrouver sur toutes les plateformes. Bonne journée Marion Lour.
Bonne journée José Manuel Lamarque. Il est 5h17 sur France Inter.
Le 5-6 sur France Inter.
Et une fois n'est pas coutume, c'est le mot paix qu'on retrouve le plus ce matin à la une de vos journaux. Accord Israël-Hamas, jour de paix, titre Libération avec une double photo, le soulagement des deux côtés, palestiniens et israéliens, une habitante, un habitant qui agite des drapeaux en souriant. Israël-Gaza, Donald Trump ouvre un chemin pour la paix, annonce de son côté le Figaro, qui rappelle le contenu de l'accord, libération des derniers otages israéliens du Hamas contre des prisonniers palestiniens et un retrait partiel de l'armée israélienne à Gaza. Paix à Gaza, les raisons d'y croire, ça c'est l'optimisme volontaire affiché par le journal L'Opinion. Avec cette caricature de CAQ, encore une fois très réussie, Emmanuel Macron, debout devant le Panthéon, lit le plan de paix du président des États-Unis, lève vers le ciel un bras grandiloquent et articule « Entre ici Donald Trump ». Quand ce n'est pas de paix qu'il est question, c'est le mot « espoir », l'espérance et la prudence en une de l'UMA, avec cette petite fille enveloppée dans un drapeau palestinien. Une lueur d'espoir, affirme de son côté la croix en manchette. Alors que le cœur de une montre le pape Léon XIV, qui a publié son premier texte majeur. Il exhorte, rapporte le journal, les catholiques à la charité, citation « Il n'est pas possible d'oublier les pauvres », quand le Parisien, aujourd'hui en France, s'intéresse plutôt aux Français, si inquiets face à la crise politique qu'ils en oublient de dépenser. En une de vos journaux, en plus du mot paix, en plus du mot espoir, il y a le mot retraite, cette réforme mal aimée qui pourrait être rediscutée. Un gâchis irréversible, s'inquiète l'édito des Échos, l'arithmétique de la lâcheté, pointe celui de l'Opinion. Voilà, si vous avez encore une petite faim, il y a à boire et à manger dans le Parisien Magazine. À table, numéro à déguster, le programme est annoncé. La gourmandise est un joli défaut, assurant une l'hebdomadaire, qui prévient, on n'oublie pas le petit déjeuner, nous non plus. 5h19. Ils ont connu les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015 et se sont radicalisés dans la foulée jusqu'à devenir une mouvance d'extrême droite qui veut se venger. Cyril Lacarrière, la génération Bataclan, d'où ça sort ?
Alors imaginez une génération marquée à jamais par une soirée d'automne, un concert de rock interrompu par des terroristes, un traumatisme qui devient un symbole. Nous sommes le 13 novembre 2015 à Paris, au Bataclan. Et très vite, dans les médias, émerge cette génération Bataclan. À travers cette notion, on parle de cette jeunesse qui sort, qui va voir des concerts, qui boit des verres en terrasse. Cette jeunesse qui s'est retrouvée en première ligne des attentats. C'est ce titre qui barre la une de Libération le lundi 16 novembre. À travers cette expression, on veut surtout revendiquer le désir de continuer à vivre, à danser et à voir malgré la peur. Une association, Génération Bataclan, voit même le jour sous ce nom, avec le projet de rassembler au-delà des victimes directes des attentats terroristes.
Mais cette expression, elle va vite être détournée, Cyril.
Quelques semaines après le 13 novembre, l'extrême droite s'en empare. Pour le groupe Génération Identitaire, depuis dissous, cette Génération Bataclan, c'est celle d'une jeunesse sacrifiée par l'immigration, l'islamisation et trahie par ses élites. Le Bataclan devient un symbole, celui du grand remplacement théorisé par Renaud Camus et de la guerre de civilisation. La formule est aussi reprise par les théoriciens de l'ultra-droite pour qualifier tous ces jeunes qui se sont radicalisés au lendemain des attentats et qui sont tombés dans la lutte ultra-violente. L'ultra-droite, aujourd'hui, c'est la deuxième menace terroriste en France après le djihadisme. Loin derrière, mais quand même. Alors d'où ça sort cette génération Bataclan ? Eh bien de là, d'un esprit dévoyé, et ce n'est que le début de notre histoire.
C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Ils seront en émission, Cyril et Mathieu, en émission spéciale, en public, en direct du MUCEM à Marseille, à l'occasion de la Fiesta des Suds cet après-midi, avec notamment Youssoufa, le footballeur Benjamin Pavard, ou encore Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol. Rendez-vous à 16h sur France Inter. 5h21, avant de parler de l'amour et dans le pré avec Tanguy Pastureau, le groupe Meule, oui, comme Meule de Foin, chante Entre Deux sur France Inter. Entre Deux de Meule qui seront en concert le 18 octobre à la Maroquinerie à Paris, le 31 à Massy en région parisienne, dans le 91 et le 20 novembre à Bruxelles.
France Inter.
Et à à 5h24, l'humour de Tanguy Pastureau qui maltraite l'info et surtout une éleveuse d'alpagas très spéciale qu'il a vue dans une émission à la télé.
Moi, l'amour est dans le pré, j'ai suivi les premières saisons, puis je me suis lassé. Avec le temps, ça me fait toujours ça. Ici, c'est pareil, j'écoute plus rien. Hein, pendant que vous parlez, dans ma tête, je fais des mots croisés. Verticalement, toujours rigolo, c'est un baladin de qualité. Holdelaf, oui, ça rentre. Cette phrase est bizarre, elle donne envie de mieux connaître Holdelaf. Ou pas, comme on disait en 2015. Titre, comme on disait il y a 2 ans. Comme on dit aujourd'hui, parce que je sais plus du tout ce qu'on dit. L'amour est dans le pré, j'explique pour les auditeurs de France Inter, Canal Historique, les profs sans dents de 78 ans qui sont fait grand remplacer peu à peu par les amateurs de rap, de vidéo lol et de stand-up. Il s'agit d'une émission mettant en scène des agriculteurs, des éleveurs, parfois des vignerons. Je me souviens d'une année où il y avait un vigneron qui vivait sur l'île de Porquerolles. Il avait eu 4000 lettres, là où l'éleveur de porc du Finistère en avait reçu 2, dont 2 étaient destinés à Toto, son plus beau porc. Parce qu'en fait, un portrait vidéo est diffusé pour chaque agriculteur. Les célibes à la maison voient ça et écrivent. Enfin, avant, maintenant c'est ChatGPT qui le fait, hein. Plus personne n'écrit. J'imagine que allez, Marc Lavoine, le matin, entre sur ChatGPT la phrase « Fais-moi une chanson comme je sais les faire, mais en plus actuel. » Et là, ChatGPT lui sort les yeux Kalachnikov, un titre sur la vie quotidienne à Grenoble, ville près de laquelle je joue samedi. Le près d'eux est très important, puisque je tiens à mon intégrité physique.
Bien sûr.
Hein, pour l'instant, j'ai lâché que mon appendice. Après une appendicite à l'âge de 7 ans, à la clinique, on m'avait endormi, on m'avait dit « Tu vas voir un jour, il y aura Michel Barnier. » Je m'étais endormi. Et je reviens à l'amour et dans le pré, parce que toutes ces digressions sont autant d'obstacles à ma percée auprès du grand public. Pourquoi elle cartonise les rags? Parce que c'est simple. Hein, c'est quand tu... Bah si, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Daniel. Vous voyez, j'aurais fait ça il y a 8 ans au lieu de vous rejoindre. Aujourd'hui, c'est moi que vous auriez en invité pour mes dates à la Défense Arena, avec en première partie Artus. L'amour est dans le pré. L'agriculteur reçoit des lettres et dit « Ah, celle-ci, Patricia, écrit très bien, elle a l'air intelligente et sensible. » Puis il réalise qu'avec les lettres, il y a des photos. 4 minutes plus tard, Karine Lemarchand lui dit « Bah alors Hervé, c'est pas Patricia que vous avez retenu cette dame en photo en nuisette qui se lèche la lèvre. C'est Cynthia. » L'autre répond « Oui, je sais. » Ce qui démontre que l'écrit, on s'en tape. À part du temps de Rabelais, peut-être, ou sortir avec lui, c'était avoir accès à des gigots de 17 kilos. Bon, aujourd'hui, l'écrit, ça ne fait plus vibrer. Donc, le travailleur de la terre sélectionne 2 individus qui viennent passer du temps chez lui, à la ferme. Et on sent, bah, qu'il faut que ça se fasse, quoi. Le but n'étant pas de visiter la ferme, sinon t'y passes 8 jours en août avec tes enfants. Et là, depuis avant-hier, il y a un extrait de L'amour est dans le pré qui tourne. Je l'ai vu, ça m'a fait rire. Et pourtant, je suis pas bon public. Hein. Pour animer une soirée poilade, je suis le dernier qu'on appelle après Guy Georges. Je vous explique. Géraldine, graphiste parisienne de 49 ans, s'est reconvertie dans l'élevage d'alpaga. L'alpaga ressemble au lama, mais en plus petit. C'est comme nous par rapport à Teddy Riner. Là, elle se dit, je vais partager un tête-à-tête avec Jérôme, l'un de ses prétendant un tête-à-tête, ça veut dire qu'on voit la personne. Sauf pour Louis XVI, le soir du 21 janvier 1793, on pouvait s'isoler avec juste sa tête. Géraldine traîne Jérôme dans l'enclos des bêtes, il s'assoit à côté d'un couple d'alpagas. Sauf que ces idiots de bestiaux sont crus au Cap d'Agde. Ils ont commencé à s'accoupler à 2 cm de Géraldine et Jérôme. Et l'alpaga n'est pas discret. C'est le point commun qu'il a avec le Corse qui se lance dans une polyphonie avec son frère. Il émet un son qui ressemble à un gros ronronnement gênant. Bruit censé, alors, j'ai lu ça, favoriser l'ovulation de la femelle. Voilà, alors que nous, si on grogne pendant l'acte, c'est pas que certains 9 mois plus tard, il y a un bébé. Ou alors les asthmatiques repeupleraient la France. Ah là, on serait déjà 120 millions. Alors, mon conseil, si vous aimez la gêne, la gênance pour les ados, courez voir cette vidéo. Également, si vous aimez les alpagas ou les grognements rauques, hein, Gérard Darmon après une course à pied, ça vous plaît. Bon, bah, ça aussi. Par contre, j'ai une pensée pour le caméraman de l'émission qui s'est retrouvé à filmer Jérôme. J'attends de clôter Géraldine devant un couple d'alpagas. Désinhibé. Pour moi, ça vaut la prime de Noël. Non, il faut lui donner. L'amour est dans le pré, c'est donc tous les lundis sur M6 à 20h55. Éloignez les enfants. Hein, vous pouvez les mettre sur la version censurée, la chaîne Animaux, n'importe quel documentaire normal, en fait, sur les alpagas.
On éloigne les enfants. Tanguy Pastureau a retrouvé dans l'émission la bande originale de Nagui et Leïla Kadour Boudadi. Ils reçoivent tout à l'heure l'auteur de bande dessinée Riyad Satouf pour la nouvelle édition illustrée par lui de Terre des Hommes de Saint-Exupéry, parue chez Gallimard. Dans une poignée de secondes, le journal.
Marseillais, vous en avez marre d'être envahi par les Parisiens.
Mathieu Noël.
Eh bien, bonne nouvelle, toute l'équipe de Zoom Zoom Zen débarque à Marseille en direct et en public au Mucem.
Peu cher, c'est trop stylé Marseille. En plus, j'ai des copines au good.
Bon, c'est pas aussi charmant qu'Alençon, mais c'est sympa.
Zoom Zoom Zen à la Fiesta des Suds.
C'est ce vendredi en direct du Mucem de 16h à 18h.
Réservation sur fiestadesud.com.
5h29 sur France Inter et voici Ali Badou qui vient de me rejoindre.
Bonjour
dans ce
Marion.
Studio. Bonjour, ça va bien ?
Mais magnifiquement.
Quel est notre programme aujourd'hui ?
À 6h20, vous recevrez Claire Toury qui est présidente du mouvement associatif qui organise des manifestations aujourd'hui un peu partout en France pour protester contre les coupes budgétaires à venir. À 8h moins le quart, le débat éco. Mmh. Impossible d'échapper à la question de la réforme des retraites. On en parlera avec Thomas Porchet, Dominique Seux évidemment. Et à 8h20, une spéciale Proche-Orient avec le plan américain dirigé par Trump qui semble s'imposer puisqu'il a été signé dans la nuit. Grand entretien avec David Kalfa qui est membre de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et à la Fondation Jean Jaurès et cofondateur du think tank International Atlantic Middle East Forum. Rim Momtaz, rédactrice en chef de la plateforme Stratégique Plateforme chez Carnegie. Et Thibault Lefebvre, correspondant de Radio France à Jérusalem.
Merci, à tout à l'heure Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal Lukanich, bonjour.
Bonjour.
Donald Trump assure que les otages israéliens seront de retour d'ici lundi.
Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a officiellement validé cette nuit la première phase du plan de paix, qui prévoit notamment un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'entrée de l'aide humanitaire et le retour donc des otages, en échange de la libération de 2000 prisonniers palestiniens. Certains sont condamnés pour des crimes de sang. À Ramallah, notre correspondant Lucas Lazo a rencontré un ancien détenu palestinien libéré après 17 ans de réclusion, qui s'inquiète aujourd'hui de l'avenir de ses anciens compagnons.
Les mots lui manquent pour décrire les conditions d'incarcération inhumaines des prisons israéliennes d'où il espère que certains de ses frères d'armes seront bientôt libérés. C'est sous couvert d'anonymat que cet ancien prisonnier palestinien, condamné pour sa participation à la seconde intifada, a accepté de se confier à notre micro.
Personne ne peut comprendre ce qu'ils vivent. La façon dont ils sont humiliés, insultés et battus à l'intérieur de la prison, surtout après le 7 octobre. Je te parle de choses qui dépassent l'entendement humain.
Comme beaucoup de Palestiniens, il espère la libération dans les prochains jours des principales figures de la résistance et notamment celle de son compagnon de captivité Marwan Barghouti, dont la présence sur la liste reste entourée de mystères. Il doute pourtant qu'elle puisse, une fois libre, poursuivre leur engagement pour la cause palestinienne.
Les détenus qui sortiront des prisons vivront dans la terreur permanente. Ils seront pris pour cible 24 heures sur 24. Ils ne pourront ni se déplacer librement, ni mener la moindre activité, parce qu'ils seront immédiatement arrêtés ou assassinés.
Selon la commission palestinienne des prisonniers, de nombreux détenus libérés lors des précédents échanges ont été arrêtés de nouveau ces derniers mois, leur laissant peu d'espoir de reprendre une vie normale. À Ramallah, Lucas Lazo, France Inter.
Et Donald Trump prévoit de se rendre dès dimanche au Moyen-Orient. Il espère être là lundi pour le retour des otages. Donald Trump, désavoué par la justice dans son pays. Une juge fédérale suspend le déploiement de la garde nationale à Chicago et dans la région. Le président américain avait invoqué un risque de rébellion. Je n'ai trouvé aucune preuve crédible en ce sens, lui répond la juge. Après l'ancien directeur du FBI, c'est au tour de la procureure générale de New York d'être inculpée, Letitia James, opposante à Donald Trump. Elle avait lancé des poursuites qui avaient abouti à une condamnation du président américain. Elle a donc été inculpée hier, accusée de falsification de documents concernant des demandes de prêts immobiliers. Letitia James dénonce des représailles politiques. Le premier ministre belge Bart De Wever, visé par un attentat djihadiste qui a finalement été déjoué, deux suspects avait prévu une attaque au drone avec un engin potentiellement explosif que la police a finalement retrouvé. Les deux hommes ont été interpellés à Anvers et vont comparaître aujourd'hui devant la justice.
Cédric Jubilla a rappelé une dernière fois à la barre aujourd'hui à Albi.
Après trois semaines de débats et les auditions d'une soixantaine de témoins, la cour d'assises du Tarn va procéder à l'interrogatoire récapitulatif de l'accusé au procès du meurtre de son épouse Delphine en décembre 2020. Cédric Jubilla va donc tenter une dernière fois de convaincre la cour et les jurés de son innocence. À Albi, le récit de Jean-Philippe Dogneau.
L'absence de corps, de témoins directs, de preuves formelles, les failles de l'enquête pourraient plaider en sa faveur. Mais le pire ennemi de Cédric Jubilard pour convaincre la cour d'assises de son innocence reste Cédric Jubilard. Ses contradictions, son manque d'émotion après la disparition de Delphine, ses mensonges, ses provocations, ses insolences ne l'aident vraiment pas aujourd'hui dans sa démarche. Mais ça n'en fait pas un coupable, plaide encore son avocate, maître Emmanuel Franck.
Il répondra comme il est, ça n'ira pas, les uns les autres vont
dire, il ne le dit pas avec assez de sentiment. S'il se mettait à pleurer, on dirait, mais c'est des larmes de crocodile. S'il ne pleure pas, on va dire, il est froid. Ben, c'est son personnage, il est comme ça.
Les avocats de la famille et des proches de Delphine ont espéré des aveux de l'accusé, mais ils n'attendent plus rien désormais, regrette Maître Mourad Batik.
Il a des réponses mécaniques depuis le début de ce procès, donc il y a très peu de chances. Après, il y a toujours des choses qui se passent dans la cour d'assises qui nous dépassent. Mais en tout cas, il y a très peu de chances qu'il change de couloir de nage dans lequel il est depuis le début.
Et pour les proches de la victime, cette quasi-certitude qu'ils ne sauront jamais où repose le corps de Delphine.
Le nombre de crimes et délits homophobes et transphobes a triplé depuis 2016. L'Observatoire des inégalités en a comptabilisé plus de 3000 l'année dernière. Un chiffre probablement sous-estimé, précise l'Observatoire, car une grande partie des actes ne sont pas déclarés, notamment car ils restent difficiles à prouver. Enfin, il avait marqué le public de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris l'an dernier. Gojira, le groupe de métal, a reçu 2 prix hier soir à l'occasion de la toute première cérémonie des foudres, cérémonie qui récompense le métal français. Elle se déroulait au Bataclan. Le groupe a donc reçu une foudre pour la meilleure performance live et une autre pour, je cite, saluer une contribution exceptionnelle à la scène du métal. A noter aussi le groupe marseillais Landmarks qui reçoit lui aussi 2 foudres. Landmarks sacré artiste de l'année ainsi que meilleur album.
Eh ben, on va pas vous faire écouter ça tout de suite, c'est peut-être un peu trop tôt le matin. Merci pour ce journal, Lucanic. C'était donc votre journal et vous pouvez rentrer chez vous. Bon vendredi avec du soleil au programme. Le temps redevient plus sec, sauf en Corse où averses et coups de tonnerre sont encore possibles. Ce matin, la grisaille est encore présente par endroits. Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Piémont-Pyrénéen voient passer des nuages bas et des brouillards, mais ils vont se dissiper dans la matinée. Ailleurs, le soleil s'impose dès ce matin. Cet après-midi, des nuages encore visibles sur le nord de la Bretagne, de la Normandie, les Hauts-de-France. Et le nord du Grand Est, d'ailleurs, le soleil brille, le mistral reste modéré. Côté thermomètre, prévoyez 5 à 18 ce matin, 16 à 27 cet après-midi. 16 à Cherbourg, 17 à Nancy, 18 à Lyon, Lille et Strasbourg. 19 à Brest, Clermont-Ferrand et Paris. 22 à Limoges, Toulouse et Bordeaux. 25 à Perpignan, 26 à Marseille et 27 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et on fait un peu de sport ce matin dans la playlist de Mathieu Conquet. Vous êtes prêt, Mathieu?
Je fais
c'est
des
bon.
Pompes, je suis prêt.
Voilà, bonjour Mathieu. Ce matin,
bonjour Marion.
Vous nous parlez de musique, de football américain et de politique.
Et vous vous doutez pourquoi, Marion? Bad Bunny a été choisi pour le halftime show du Super Bowl. Entendez le concert de la mi-temps lors de la finale de foot américain le 8 février prochain. Et cette nouvelle déclenche un torrent de joie et de colère aux États-Unis. Explication, avec un peu de son quand même.
Si te quieres divertir, con el templo y con primor, solo tienes que vivir.
¿A dónde?
Un verano en Nueva York.
Nueva York.
Si te quieres divertir.
Ça ne se passera pas à Nueva York, la New York des Latinos. Non, le Super Bowl se déroulera à Santa Clara, en Californie. Ouais. L'événement sportif est aussi, vous savez, c'est un des moments les plus médiatisés, bien les sûr. Plus regardés aux États-Unis. Ça dépasse carrément le cadre du football et de la musique. Il devient même politique quand c'est un artiste comme Bad Bunny qui est choisi. D'un côté, tout est normal. Le promoteur du show, Roc Nation, la société de production du rappeur Jay-Z, a tout simplement retenu l'artiste le plus écouté au monde sur les plateformes de streaming. Et en plus, il vient de sortir cette année un album qui a marqué les esprits.
Logique.
Logique. Mais pour Donald Trump, qui déclarait lundi ne pas savoir qui était Bad Bunny, oh. Ce choix de la NFL est juste ridiculous, absurde ou grotesque. Sans doute à cause du fait que Bad Bunny ne chante pas en anglais mais en espagnol, qu'il est portoricain, un pays sous tutelle des États-Unis dont Bad Bunny est la voix la plus proéminente et la plus critique. Mm. Enfin, son soutien régulier à la cause LGBT n'arrange sans doute rien aux yeux des MAGA. Et pourtant, Bad Bunny, c'est la douceur avant tout. Écoutez ceci.
También vamos a disfrutar que la noche se puso bonita, pero no tanto como tú, jamás y nunca como tú.
On croirait qu'il nous joue de la mandoline de séducteur napolitain.
Ouais.
Bad Bunny, on l'attend en France aussi cet été.
Et comment les places pour les... Mais oui, pour les 4 et 5 juillet 2026 à la Défense Arena à Paris, c'est déjà vendu depuis longtemps. Bad Bunny a commencé sa tournée par une série de 30 concerts au Coliseo de San Juan à Porto Rico qui ont attiré plus d'un demi-million de spectateurs. Mais et ben pourtant, il fera l'impasse sur les États-Unis en 2026 parce que Bad Bunny craint pour ses fans qui pourraient se faire contrôler par les agents de l'ICE, hein, la police anti-immigration, à l'entrée de ses concerts. Qui aurait parié il y a 10 ans que l'ex-caissier de supermarché devenu chanteur de reggaeton changerait le visage de la musique et de la politique entre son île et les États-Unis? Salsa, rumba, mais aussi house music qui se transforme en plena, c'est ce genre très populaire à Puerto Rico. Tous ces mélanges paraissent ici évidents. Debí tirar más fotos, ce sera sans doute l'un des albums marquants de cette année 2025. On regardera avec attention ce qui se passe au Super Bowl, pour ne pas dire encore « Oh, j'aurais dû prendre plus de photos !» Bad Bunny.
Otro son se bonito que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mí, Crunch?
Y tirarte las fotos que no te tiré.
Chavo, grote, bien lindo, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos esbarata.
Y sería cabrón que tú me toques el guiro.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Debí tirar más fotos
de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden.
Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. 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 Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco.
Debí tirar más fotos, c'est le titre, merci, c'est le titre de l'album et du morceau de Bad Bunny à retrouver dans la playlist de France Inter. Merci Mathieu, et on va vous retrouver ce soir avec d'autres nouveautés.
Et oui Marion, et je remets le son, je vous parlerai de Stromae avec Paul Kalkbrenner, du nouveau Isha et Limsa Dolnay, et de Salif Keita. Voilà, on va vibrer, à ce soir.
À ce soir. 5h42 sur France Inter, un grand reportage exceptionnel ce matin au lendemain de la panthéonisation de Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine capitale, direction les États-Unis où plus de 2000 personnes attendent dans les couloirs de la mort. Donald Trump a relancé les exécutions, il aide les États à se procurer les produits pour les injections létales. Depuis l'arrivée de l'ex-homme d'affaires à la Maison-Blanche, 34 personnes ont été exécutées, une tous les 8 jours. Claude Guibal a pu s'entretenir au téléphone avec Keith Lamar, condamné depuis 30 ans. Il attend.
This call is from a DRC correctional facility.
Hello. Quand je l'ai appelé il y a quelques jours, Keith Lamar était dans sa cellule du pénitencier de sécurité maximale à Youngstown, dans l'Ohio.
Je suis dans une cellule de 7 mètres carrés environ, grosso modo la taille d'un placard. Il y a une fenêtre, un bureau, un lit, des toilettes. C'est pas grand, mais c'est plus grand que la moyenne, comme j'y passe 22 heures par jour.
Alors par sa fenêtre, il voit le parking, les visiteurs, les employés qui entrent et sortent.
Je vois les gens partir et c'est comme s'ils me laissaient derrière eux. Mais je préfère être de ce côté-là, parce que je ne veux pas être complètement coupé de la vie.
La prison Kislamar n'a pas 20 ans lorsqu'il y entre. En 1989, pour le meurtre d'un autre dealer, il plaide coupable, il prend 18 ans, et quelques années plus tard, une mutinerie sanglante éclate dans le pénitencier où il est enfermé. Accusé d'avoir tué 5 co-détenus, il est condamné à mort, pas de témoin direct, élément à décharge ignoré, il est condamné sur la foi de témoignages obtenus d'autres prisonniers en échange de réduction de peine. Depuis 30 ans, il clame son innocence, persuadé d'avoir été sacrifié pour masquer les défaillances de l'administration pénitentiaire.
Je ne me résigne pas à l'idée d'être exécuté. Même si, à l'approche d'un an de la date prévue de mon exécution, j'ai bien conscience que, pour beaucoup, c'est déjà joué d'avance. Mais moi, je compte me battre jusqu'au bout, s'il le faut.
Une bataille qu'il mène, Claude, depuis sa cellule.
Oui, depuis ses 7 mètres carrés où il a repris les études, s'est plongé dans le droit, là où il a découvert la musique, le jazz, John Coltrane, et puis la littérature avec ce livre qui fait tout basculer, « Si c'est un homme » de Primo Levi, un témoignage depuis les camps de concentration sur la déshumanisation et la survie.
Il a réussi à disséquer le système, à mettre de la logique dans quelque chose de totalement illogique. Et ça, ça m'a servi de guide pour naviguer dans l'inhumanité des hommes.
Kislamar aurait dû être exécuté le 16 novembre 2023, mais la pénurie de médicaments utilisés pour la peine par injection a contraint le gouverneur de l'Ohio à reporter l'exécution. Dans d'autres États, on contourne désormais le problème, le peloton d'exécution a repris du service, on électrocute, on asphyxie les condamnés à l'azote. Le tribunal a demandé à Kiss la méthode qu'il préférerait.
Je ne vais pas vous dire si je préfère être fusillé ou mourir dans une chambre à gaz. Je ne vais pas participer à ça. Je veux me battre pour ma vie.
Dans sa prison, avec la télévision comme lucarne sur le monde, il a assisté au retour de Donald Trump et ses appels à rétablir et renforcer la peine de mort.
Nous sommes l'un des derniers pays industrialisés à appliquer la peine de mort aux côtés de la Corée du Nord, de la Russie ou de l'Afrique du Sud. Pour moi, c'est une tache sur les valeurs proclamées de ce pays. La liberté, la justice, tout ce dont il se targue. Une des contradictions les plus flagrantes entre ce que l'Amérique prétend être et ce qu'elle est vraiment.
Alors chaque jour qui passe est une lutte qu'il mène avec ses avocats, avec l'art aussi, avec ses concerts à travers le monde auxquels il participe à distance depuis sa prison, avec le jazzman Albert Marquez qui se bat pour prouver son innocence.
J'essaye de donner au maximum un sens à ma vie. Je sais que je vais mourir un jour, que ce soit dans mon sommeil, ce soir ou à une date future. Nous allons tous mourir, mais nous ne vivons pas tous. Nous ne saisissons pas tous le temps qu'il nous reste pour faire quelque chose de juste.
Kislamar doit être exécuté le 13 janvier 2027.
Une vie dans le couloir de la mort, c'était le grand reportage de Claude Guibal. Merci Claude.
France Inter. Marion Lourd, le 5-6.
Il est 5h47, l'heure de contacter notre invité déjà debout, fermier à Saint-Martin-d'Arossa, au Pays Basque. Bonjour Guylaine Hérotaber.
Bonjour.
J'espère que je prononce bien votre nom.
Oui, c'est ça.
Vous avez une ferme de volailles, un troupeau de brebis allaitantes, des pommiers qui vous permettent aussi de produire du jus. Pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout, alors précisément le vendredi à cette heure-ci?
Alors, le vendredi, je me lève vers 5h parce que je dois donc livrer les produits de l'exploitation sur des grandes surfaces ou des maraîchers, des revendeurs sur la côte du Pays Basque.
Vous allez en fait vendre en direct vos produits, ce qui n'est pas le cas forcément les autres jours où vous vous levez un peu plus tard.
C'est ça. Après, en semaine, deux fois par semaine, on fait quand même donc l'abattage de nos volailles.
Et donc, ça, c'est encore plus tôt, assez tôt. À 4h30.
C'est ça.
Vous avez des horaires donc très, très variables. Pour ce qui est des ventes, vous vendez à qui en fait?
Alors, sur l'exploitation même, on fait de la vente directe où les particuliers eux-mêmes viennent acheter nos produits. Et sinon, on fait aussi des marchés, donc 3 marchés par semaine. Et on vend aussi à quelques supermarchés et des revendeurs.
Et ça ressemble à quoi chez vous, votre ferme? Décrivez-nous un peu.
Alors, c'est une ferme familiale qui, c'était mon père et ma tante qui étaient associés sur cette exploitation que j'ai repris en 2018. Et c'est une petite exploitation du Pays Basque, une trentaine d'hectares, et où on élève de la volaille, des poules pondeuses et des brebis donc allaitantes. Pour vendre de l'agneau.
Beaucoup d'activités différentes. Une journée type dans votre semaine d'exploitant, ça ressemble à quoi ?
Donc, ça varie quand même par rapport aux saisons. Là, on va rentrer dans l'automne et l'hiver. Donc, je me lève le matin, je vais nourrir le bétail. Donc, plus, moi, je m'occupe plus des brebis. Et après, ça varie. C'est vraiment... il peut y avoir quelque chose à faire avec les poulets ou... Ça change beaucoup, quoi.
Il faut dire que vous n'êtes pas complètement tout seul, vous faites ça avec une petite équipe.
Oui, c'est ça. Donc, mon père est à la retraite, mais il nous donne toujours un petit coup de main. Et après, je suis associé avec ma tante. Et on a aussi une salariée, quoi.
Et ce n'était pas une vocation pour vous au départ ? C'est-à-dire que finalement, ça vous est venu qu'au lycée, cette envie de reprendre l'exploitation de votre père ?
C'est ça. Oui, en fait, mon père ne m'a pas forcément, je veux pas dire forcé, mais il m'a laissé le choix. Donc, j'ai fait un parcours. Je suis allé jusqu'au bac général, et après, j'ai donc choisi moi-même de faire un BTS agricole par la suite.
Et pourquoi tout d'un coup ?
Je sais pas. J'avais quand même cette envie de travailler à l'extérieur Et le goût plus de la brebis m'est venu un peu plus tard en faisant des formations, des stages. Et c'est venu comme ça, quoi.
En ce moment, le sujet qui mobilise beaucoup les agriculteurs et les éleveurs, c'est l'accord sur le Mercosur. Est-ce que ça vous concerne, vous, cette zone potentielle de libre-échange avec un certain nombre de pays d'Amérique ?
Moi, pas vraiment, parce que moi, sur notre exploitation, on fonctionne en vente directe, donc...
autrement dit.
Exactement, circuit court. Les particuliers viennent eux-mêmes acheter nos produits, donc c'est pas quelque chose qui nous concerne vraiment, quoi.
Vous ne craignez pas qu'ils se tournent vers des produits moins chers et qui viendraient éventuellement de plus loin ?
Je sais pas. Il faudrait peut-être faire un peu plus de pédagogie, mais nous, on a quand même notre clientèle. Et je pense qu'il faut peut-être pousser les gens de plus en plus à acheter des produits locaux près de chez eux. C'est peut-être la solution. Ouais.
Guylaine Hérotabéer de Saint-Martin-d'Arossa en Pyrénées-Atlantiques. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin sur France Inter.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
5h51 avant de déguster notre café philo sur France Inter. Retour en arrière avec ce tube de Beth Ditto et Gossip Man in Love. Love de Gossip, extrait de leur album Music for Men, sorti en 2010.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de retrouver Patricia Martin pour un café philo au petit matin. Bonjour Patricia.
Bonjour Marion Lourd.
Café philo d'un genre un peu particulier aujourd'hui puisque vous inaugurez ce soir dans l'heure philo une série d'émissions consacrées au sujet philo du baccalauréat.
Oui, bête noire pour bien des élèves, Marion. Oui. Souvenez-vous, et leurs parents aussi, mais vos enfants ne sont pas encore en âge de passer le bac.
Non.
Nous avons donc choisi garder le sourire, de prouver que la philo fait partie de la vie et que des notions comme la liberté, la justice, la raison, la religion ou la vérité ne sont pas que des pinsommes. Chaque mois donc, nous ferons venir une classe de terminale ainsi que leur professeur de philosophie pour approfondir une des notions qu'ils doivent étudier.
Je ne vous laisserai pas dire que j'ai eu une mauvaise note au bac philo, ce n'est pas vrai.
Je ne l'ai pas dit.
C'est une classe de terminale du lycée Lavoisier à Paris qui va commencer autour de quel thème ?
On commence en douceur, hein, avec le bonheur.
Ah.
Imaginez une trentaine d'élèves donc réunis dans un studio de Radio France. Certains avaient pris place autour de la table, d'autres étaient assis par terre, d'autres encore étaient restés debout, tous fort attentifs à ce qui se disait. Mmh. Extrait de l'émission avec Jules et Pascal. Jules parle de son approche de la philosophie et Pascal revient sur ce qu'une camarade de classe avait affirmé au sujet du bonheur. Mais d'abord Jules.
C'est vrai que moi j'ai eu quand même 2-3 contacts avec la philosophie depuis le début de l'année et c'est assez intéressant parce qu'en fait les textes qu'on étudie nous donnent des clés pour essayer d'argumenter et de contre-argumenter. La philosophie qui est de se poser des questions plutôt ouvertes, ça permet justement de venir et de dire « je ne suis pas vraiment d'accord » parce que d'une certaine manière, d'autres personnes ont dit le contraire et je pense que le propos est à nuancer.
Pascal, c'est à toi, on t'écoute.
C'est juste pour dire que Adriana, par exemple, tout à l'heure, t'as soulevé un point que je trouve qui n'est pas forcément juste. T'as dit que pour atteindre le bonheur, il faut passer par une période de malheur, mais... c'est pas forcément le cas parce que quelqu'un dont le bonheur se constitue uniquement de plaisir, s'il passe par cette période de malheur, il va pas atteindre son bonheur. Il va juste devoir se contenter d'un bonheur partiel, ce qui est pas forcément son objectif. Quelqu'un, par exemple, qui veut atteindre un bonheur simple, par exemple, même le fait de se réveiller, pour certains, c'est un bonheur. Ceux qui sont malades, qui subissent des choses compliquées, le malheur, le vrai, en tout cas, c'est pas quelque chose que quelqu'un doit nécessairement vivre pour atteindre le bonheur. Parce que finalement, si on disait ça, ça veut dire que pour chaque bonne chose, il faudrait subir une mauvaise chose en contrepartie. C'est comme si en fait, on disait oui, pour que tu atteignes tous les objectifs de ta vie, il faut que tu sacrifies tout. Alors, tout ce que tu as, tout ton passé, c'est pas forcément une bonne chose.
Jules et Pascal qui seront ce soir dans leur philo pour cette série spéciale de sujets du bac avec toute leur classe de terminale
aussi,
du lycée Lavoisier. Il y a bien sûr des filles, heureusement. Et leur professeur de philo qui est une femme, Clara Da Silva, ainsi que Johanna Hocken, philosophe et responsable d'atelier de philo pour enfants. Que du beau monde à ce soir.
À ce soir, merci Marion.
20h10.
France Inter, 9h, Rebecca Manzoni.
Une séance photo à la radio, c'est totémique. Et cette semaine, le visage de Vanessa Paradis apparaît sur le Polaroid.
Alors, il y a une bouteille de whisky derrière moi sur ce Polaroid. C'est la bouteille de whisky de Rebecca, c'est absolument pas la mienne. Et je dois vous dire, messieurs, dames, qu'elle est presque finie.
Son nouvel album, Le Retour des Beaux Jours, La Voix de Marvin Gaye et un Polaroid.
Totémique.
Avec Vanessa Paradis, c'est ce vendredi à 9h sur France Inter.
5h58.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Un temps doux au programme, Élodie Calac.
Plus de soleil aujourd'hui, il s'installe vite autour de la Méditerranée avec encore un peu de mistral et de tramontane. Sur l'est de la Corse, encore quelques orages ce matin, puis juste quelques averses dans l'après-midi. Ailleurs, le soleil s'impose, il doit tout de même se débarrasser des nuages bas et des brouillards. Ils sont nombreux près des Pyrénées et de l'Auvergne vers le Lyonnais, les plaines d'Isère et le Val-de-Saône, mais ils vont se dissiper. De la Bretagne vers le nord de la Seine et les frontières du nord, là aussi beaucoup de grisailles, ça va s'éclaircir par le sud. Le ciel va rester tout de même très nuageux du nord de la Bretagne vers la Normandie et le nord de la Seine. Il fait 5 à 11 degrés souvent ce matin, 11 à 16 sur le sud-est et puis cet après-midi, ce sera agréable avec 16 à 21 degrés sur une bonne partie nord, jusqu'à 23 sur le sud-ouest et 24 à 27 en Méditerranée.
Et Élodie Calac de Météo France, il est 5h59 et revoici Ali Badou.
Je n'étais pas très loin, Marion.
Pour démarrer le 6-9, c'est vrai que vous n'étiez pas très loin, mais maintenant vous êtes avec moi pour démarrer le 6-9.
Exactement, et pour annoncer le programme à 6h20, vous recevrez Claire Toury, qui est la présidente du mouvement associatif qui organise des manifestations aujourd'hui un peu partout en France pour protester contre les coupes budgétaires. Et à 8h moins le quart, le débat éco portera sur le sujet très épineux et explosif de la réforme des retraites. Thomas Porcher et Dominique Seux s'affronteront sur le sujet, et à 8h20, grand entretien spécial Proche-Orient, une table ronde pour faire le point sur cet accord de paix entre Israël et le Hamas, l'accord Trump, comme on dit, qui a été signé avec la région tout entière qui retient son souffle. Nous serons avec Rim Momtaz, David Kalfa et notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre.